Zekilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritzamarum Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous, notre tournée à Montréal se poursuit pour le plaisir de tous les amoureux de la culture. Oui, Cause Zekilti a le rendez-vous de toutes les cultures en Haïti, mais nous partons de temps en temps à la recherche de celles et ceux qui font bouger la ligne partout dans le monde, celles et ceux qui font rayonner la culture haïtienne partout. C'est la deuxième émission dans cette saison consacrée au Canada et ce week-end, ça va parler poésie avec un homme qui entretient une relation très intime avec les mots. Oui, c'est à travers les mots qu'il dépeint ses rêves ensanglantés, qu'il rédige son journal de voyageurs exilés, mais aussi qu'il chasse les mots et silences éphémères. C'est grâce aux mots qu'il ne maudira jamais la tempête. Mesdames, messieurs, John Wesley Delva dans Cause Zekilti. Restez là. Bonsoir, John Wesley Delva.
Bonsoir. J'ai lit domicile dans ma poésie. L'hiver comme refuge éternel s'étale dans l'éclatement de mes premiers gestes. Dans la patridie de l'aube, le soleil se refait une âme chaude par des mots ivres de silence et de contraste, des mots en oubli de décompte, des mots en roulement de souvenirs. J'ai lit domicile dans la tiédeur du monde. Les mots n'ont pas d'acte de naissance.
Vous êtes poète et parfois j'ai tendance à dire journaliste devenu poète, mais à vous lire, peut-être que le journaliste a été l'accident de parcours. Vous êtes très prolifique comme poète, vous avez déjà publié 6 recueils de poèmes, dont les derniers, Je ne maudirai pas la tempête, sorti en 2023 chez les éditions Milo, et Mots et silences éphémères, publié en 2024 chez les éditions Jacques Trouillot. La première chose que je vais vous demander, bien sûr, concernant cette bivalence entre journalisme et poésie, et c'est comment vous vous définissez. Est-ce que vous êtes poète devenu journaliste ou bien journaliste devenu poète?
Non, je suis poète avant d'être journaliste. Je me rappelle avoir écrit mon premier poème à l'âge de 16 ans. Je n'étais pas encore journaliste. Et j'ai écrit mon premier poème dans un contexte particulier. C'était à Petit Gouave. Il y avait un mouvement politique à Petit Gouave à la suite de l'assassinat d'un jeune qui s'appelait Robinson Larac. Puis il y avait une ébullition politique dans la ville et les jeunes ne voulaient pas répondre par la violence. Donc les jeunes, ils voulaient répondre par la poésie, par la culture, par le théâtre. Il y avait du théâtre de rue. Il y avait aussi des jeunes qui chantaient. Mais moi, j'écrivais. J'écrivais mon premier poème. Ce fut un poème de résistance. Et à travers ce poème, ma mémoire ne me fait pas défaut. Je prenais position par rapport au statu quo pour dire non à l'ingérence étrangère.
En parlant de Petit Gouave, vous êtes Petit Gouavien, mais vous avez passé une bonne partie de votre vie à Port-au-Prince et c'est là que vous avez eu un long et inspirant parcours en tant que journaliste jusqu'à la radio-télévision Caraïbe avant de quitter le pays pour vous installer au Canada. J'imagine que ce changement n'a pas été facile pour vous. Comment ça a été votre adaptation à ce nouveau pays?
Arrivé à Montréal, c'était un choc pour moi. Le choc était tout d'abord climatique. Tu t'imagines, on vient d'un pays extrêmement chaud et tu vas vivre dans un pays où il fait extrêmement froid. C'était vraiment difficile l'adaptation en termes par rapport au climat. Et le choc était aussi culturel, parce que le français parlé ici au Québec est différent du français qu'on parle en Haïti. Donc le choc était culturel. Vivant ces deux chocs-là, j'avais du mal à m'adapter. Mais au fil du temps, je suis arrivé, évidemment, à joindre les deux bouts, à m'adapter, à connaître les gens, connaître les lieux, connaître la culture, découvrir la littérature, les poètes, etc., découvrir les mots. Donc, et voilà, l'adaptation n'a pas été facile, mais elle a été possible.
Et si on réfléchit, qu'est-ce que le Canada a apporté à votre vie, à l'homme que vous êtes?
Bon, en fait, ça apporte une nouvelle perspective, ça apporte une nouvelle vision du monde, ça ouvre mon champ de regard, mon champ de vision, bien sûr, parce que c'est un nouveau pays, c'est un pays multiculturel, il y a plein de cultures. Ici, on rencontre des Arabes, des Africains, on rencontre des Québécois, des Américains, partout. Et pour avoir étudié aussi à l'Université de Montréal, donc j'ai croisé plein de monde, plein de gens, donc ça a changé ma vision du monde, ça a influencé ma vision du monde, et même ma perspective et poétique est inspirée par ce vécu-là.
John Wesley Delva, votre œuvre poétique est déjà impressionnante. Votre poésie est humaine. C'est une poésie qui parle au cœur, aux âmes et parfois au sens. Elle nous libère de nos angoisses, de nos peurs et nos douleurs. C'est une poésie qui dit nos faiblesses, mais aussi notre force de réinventer la vie. Comment êtes-vous devenu poète, John Wesley Delva?
En fait, comme je te l'avais dit, je suis devenu poète par sensibilité humaine, par cette volonté d'exister autrement. Et comme je te l'avais dit au début, c'était un mouvement politique. On voulait pas. On vivait un moment politique très particulier. Il y avait vraiment des manifestations de rue, etc. Et jeune que je fus, je me joignais à d'autres jeunes de ma génération qui, à travers la culture, voulaient s'exprimer. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que la poésie allait se révéler à moi. Mais aussi, je suis influencé par cette génération de poètes haïtiens à travers un mouvement qu'ils appelaient à l'époque Vendredi littéraire. Et j'avais un CD de Vendredi littéraire et que j'aimais écouter, les poètes Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot, André Fouad, Faubert Bolivar, etc. Et donc c'est à travers cette œuvre-là que j'allais découvrir la poésie et j'allais surtout être intéressé par Georges Castras. C'est ce poète-là qui m'a façonné et qui justement a permis qui m'a permis d'aimer la poésie, d'aimer les mots, d'aimer évidemment la démarche poétique. J'ai aimé sa démarche poétique et voilà, Castras m'a beaucoup influencé. Voilà.
Vous êtes allé à la rencontre de la poésie ou l'inverse?
Bon, je ne veux pas dire que je suis parti à la rencontre de la poésie ou la poésie est venue à moi. Je pense que c'est les deux en même temps. Parce que autant que je m'approche vers la poésie, autant que je tente de me joindre à la poésie, et la poésie aussi, elle tente de se joindre à moi. Je pense que c'est un mouvement de va-et-vient, c'est un mouvement de réciprocité.
Et qui sont, vous avez parlé de Castras, et qui sont les auteurs, mais surtout les poètes qui vous ont accompagné tout le long de votre marche de poète, comme dirait Phelps?
Bon, en fait, évidemment, tu as cité le poète, l'un des poètes que j'aime aussi, c'est Anthony Phelps. D'ailleurs, l'un des premiers recueils que j'ai lus, et sinon l'un des premiers poèmes que j'ai appris, c'est un poème de Anthony Phelps. Et si triste est la saison, il est venu le temps de se parler par signe, mon pays que voici. Et je reprends ma longue marche de poète à travers les nuits à faune, etc. C'est un poète qui m'a beaucoup façonné parce que j'aime sa poésie. Anthony Phelps, il a une poésie narrative, une poésie qui raconte une histoire. D'ailleurs, c'est ça, mon pays que voici, ça raconte l'histoire des tontons Macoutes, comment les tontons Macoutes, ils ont tué des intellectuels, comment la dictature a contraint de nombreux intellectuels à aller à prendre l'exil. Voilà, c'est une littérature et c'est un poète que j'aime, Anthony Phelps, mais il y a aussi Georges Castras. Et pour sa façon d'écrire, pour ses images, ses procédés poétiques, Georges Castras, c'est le poète qui n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour dire beaucoup de choses. Et je me rappelle si bien un poème de Georges Castras qui dit « Vent levé au rebout, joue qu'en bâti vente. Moi dit, mais si vent, mais si vente. » Il y a tout un monde de sens à travers un petit poème, à travers deux, trois mots. Donc c'est ça, j'aime Georges Castras et ces poètes-là m'ont façonné, les poètes de Haïti littéraire et d'Avertige, au Mabarigor, la ville que j'ai créée pour toi, etc. C'est des poèmes avec lesquels j'ai grandi.
Et ces auteurs, ces poètes et ces poèmes, ils ont apporté quoi à votre œuvre?
Bon, ils ont apporté à mon œuvre je dirais le souffle de la poésie, le souffle poétique, parce qu'il faut quand même des guides pour nous et les accompagner pendant le trajet. Et c'est vrai, à un certain moment, il faut être soi-même, il faut être capable de créer son propre monde, parce que le bébé, quand il commence à marcher, il a des soutiens, mais quand il commence à marcher, il marche tout seul. Donc oui, il y a des poètes qui m'ont accompagné, mais à un certain moment de ma carrière poétique, je fais la route tout seul, j'essaie d'être moi-même le plus que possible, bien que influencé par ses mentors.
Oui, à un certain moment, il faut se retrouver et de toute façon, John Luis Delva, on va essayer de revisiter vos œuvres, les principales œuvres que vous avez écrites. Le premier texte que vous avez publié, c'est le recueil des rêves ensanglantés. Ce recueil était pour vous comme une sorte d'exutoire qui vous a permis de non de guérir, mais de vous soulager des douleurs occasionnées par le tremblement de terre meurtrier de 2010.
Oui, absolument, absolument. C'est un recueil qui m'a permis d'abord de me dévoiler et au monde à la suite du tremblement de terre, parce que c'était terrible comme jeune d'avoir vécu ça. Tu marchais et tu rencontres des cadavres gisant dans leur sang et tu marchais et tu entends des cris venus de partout et c'était chaotique, c'était même apocalyptique, je dirais même. Donc voilà, et cette situation-là m'a inspiré et je n'avais pas assez comment dire, de moyens pour m'exprimer, sinon les mots, la poésie et a été ce moyen-là et cet outil-là pour écrire ce que je ressentais à l'époque. C'était, comme tu l'as bien et souligné, c'était un exutoire. C'était une façon pour moi de m'échapper, ne serait-ce que psychologiquement, à cette terreur, à ce chaos qui se présentait à moi.
S'ensuivent des songes pour habiter la nuit et journal d'un voyageur exilé. Très beau texte publié après votre installation au Canada. Ce poème, c'est comme un chant personnel, une voix intérieure et intime qui crie la solitude, la réadaptation, la découverte d'une nouvelle réalité géographique et socio-culturelle dont vous avez parlé tout à l'heure. Par rapport à ce texte, j'aimerais vous demander, John Luis Delva, comment est né le poème chez vous?
Bon, le poème est né justement de cette volonté justement de s'exprimer, est né de cette volonté d'habiter le monde autrement, de cette volonté de vouloir dire quelque chose et de vouloir aussi s'exprimer de manière différente. Parce que il y a on parle le même langage, par exemple dans les rues, dans le métro, au travail, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on parle le même langage. Mais la poésie est venue à moi parce que je veux parler autrement. Je veux évidemment m'exprimer autrement pour dire qu'il n'y a pas que le bruit dans le monde, il y a aussi de belles choses. Il n'y a pas que ce monde-là qui va vite. Il n'y a pas que le métro. Il n'y a pas que les factures à payer. Il n'y a pas que ces pressions professionnelles au travail. Mais il y a aussi ce monde beau qui nous attend, ce sourire d'enfant, cette fleur qui est devant nous. Il y a aussi ça. Donc, et la poésie sert aussi à exprimer la beauté du monde. Donc voilà, la poésie est venue à moi par cette conscience que le monde est merveilleux, et aussi par cette volonté de pouvoir s'exprimer autrement. Je pars d'île en île, conquérir l'aurore en attente de mes mains propres, mes oiseaux qui volent nus. Je traverse mon être comme une rive qui coule pour atterrir ici. Ici, le temps est un morceau de carton qui n'a pas de volonté, tel un parapluie accroché au souffle du vent. Je suis parti pour mieux revenir, avec dans la main une braise de haine qui me malmène au ras de l'épiderme, avec un morceau d'ombre chétif qui me porte un signal de honte et de peine à la rétine. Je suis parti pour laisser partir la peur, avec mes lèvres puantes de faim et l'estomac bombé de pourriture. Je suis arrivé ici, ébahi devant le contraste du temps, dans une fourrure glaciale, avec le corps coincé entre rires et pleurs, des frontières sur la peau, entre ruses et impasses de saison pour apprendre à aimer le soleil. Je suis arrivé ici, sans rose, sans maquillage, ni fanfare, pas même une petite cathédrale sous les bras. J'ai déjà fait le divorce d'avec l'aube, brouté les racines de la nuit. et j'ai déjà fait le voyage pour épouser la neige.
Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilée de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les coups, les jaseries du commerce, les enfants du carrefour et les vagues de la mer. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Toi qui rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies et de la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnent du cri de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Je chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
Vous avez publié trois autres recueils. Fissure murale, je crois, qui a été primé. Je ne maudirai pas la tempête et mots et silence éphémère. Ce dernier recueil me fait comprendre que la poésie vous aide à ne pas vous détacher de votre pays. Est-ce que j'ai bien lu?
Absolument. Et la poésie me sert aussi de rester connecté avec mon pays. C'est vrai que je n'habite plus en Haïti, mais Haïti continue de m'habiter et à tous les niveaux. Parce que j'ai toujours ce regard politique sur le pays. Quand un enfant pleure en Haïti, quand un homme est assassiné en Haïti, quand une mère de famille n'a pas d'argent pour prendre soin de ses enfants, ça me prend par les tripes, ça vient me chercher, ça m'interpelle. Et devant cette situation, des fois, je suis impuissant. Et la poésie me permet d'exprimer cette impuissance-là, parce que je peux rien faire de là où je suis. Déjà, je suis un exilé et je peux rien faire. Mais cette situation continue de me parler, de m'interpeller. Et voilà. Et la poésie me permet de dire, à un certain moment, il faut que quelque chose change dans mon pays.
On parle d'exil, il y a aussi de douleur, de solitude et d'angoisse. Et quels sont les principaux thèmes, si on prend l'ensemble de votre œuvre poétique, quels sont les principaux thèmes de votre poésie?
Oui, il y a évidemment, comme tu l'as souligné, l'angoisse, la tristesse, la solitude, la nostalgie, le mal du pays et tout, l'amour. Mais il y a aussi et la mort. La mort, c'est une thématique qui est récurrente dans presque tout ce que j'écris, parce que j'ai peur de mourir. Et c'est parce que j'ai peur de mourir que je veux être immortel. Et parce que je veux être immortel, j'écris. Donc voilà, la mort, c'est aussi cette thématique récurrente dans mes recueils de poèmes, et voilà.
Et je vois aussi le mot nuit. J'ai lu l'un des recueils, le mot nuit qui se répète, qui est très récurrent.
Oui, la nuit aussi, la nuit, c'est mon complice, en fait. Ou sinon, c'est ma complice, c'est ma compagne. Parce que entre la nuit et moi, il y a un rapport particulier parce que j'écris la nuit. Il est difficile pour moi d'écrire la journée à cause des bruits de moteur, des bruits de des ronflements de moteur, des enfants qui crient, etc. La radio et tout ça m'empêche d'écrire. Mais la nuit, le silence, ça me permet d'écrire. Donc, je suis un écrivain noctambule. Donc, c'est pour ça peut-être que dans mes textes, j'ai toujours envie de faire référence à la nuit parce que j'écris la nuit. Je suis un nuitard, pour dire, parce que même en voulant m'amuser, et j'aime me promener la nuit. Parce que non seulement la nuit, comme on le dit, apporte conseil, mais la nuit apporte bonheur et jouissance.
Et cette jouissance, vous la ramenez dans votre poésie. Et qu'est-ce que la poésie pour vous, Dionysse Delva?
Mais je pense qu'aujourd'hui, et je développe un rapport et un peu particulier avec la poésie. Et la poésie imprègne ma vie. Tout ce que je fais, tout ce que je pense aujourd'hui est poésie. Et c'est pour ça que je m'appelle poète à temps plein. Et évidemment, moi, je ne fais pas de la poésie pour la célébrité, pour être reconnu à travers le monde, mais je fais de la poésie parce que je veux moi-même exister autrement. Donc, la poésie est tout ce que je suis aujourd'hui parce que je traverse et surtout je suis un exilé, je traverse des moments difficiles et j'ai connu des blessures intérieures assez déchirantes et la poésie m'a permis d'exister. La poésie m'a permis de transcender ces moments de spleen, ces moments de douleur pour être moi-même. La poésie m'a permis aussi de voyager à travers les mots, à travers les poètes que j'aime, à travers les pays que j'aime aussi, à travers les fleurs, les arbres, les plantes. Et la poésie me permet aussi de connecter avec la nature, les rivières, les cours d'eau, les ruisseaux, la mer. Mais la poésie me permet de rester connecté. Donc la poésie est tout ce est imprègne ma vie, fait partie de ma vie, pour ne pas dire que la poésie est ma vie. Je suis de ce pays où les arbres mangent leurs racines pour ne pas mourir de faim. Je fume mes salives blanchâtres, un cendrier sous la langue. Ma bouche remplie d'eau sauvage ne récolte plus de paniers de fleurs. Je porte sur le nombril la fantasmagorie du trajet colonial. La liberté n'existe pas après la mort. Nous sommes des peuples autochtones. Le vent séché sur le tapis des nuits rapaces, le silence après le voile. Sur la cartographie de l'existence, ces peuples se dessinent au scalpel de l'histoire. Vous n'écoutez pas leurs balbutiements. Ils portent dans la voix la cacophonie des murs fêlés, la force d'habiter les fissures n'est plus un devoir de mémoire.
Chose que j'aimerais vous demander, pourquoi c'est la poésie que vous faites? Vous pourriez, par exemple, écrire des romans, des nouvelles. Pourquoi c'est la poésie?
Et c'est une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi la poésie? Mais je pense que la poésie, pour moi, c'est le genre qui me permet d'être authentique, d'être vrai. Et ça me donne plus. Puisque je n'ai pas encore essayé ni au roman ni aux nouvelles, je sais pas, mais j'ai l'impression que la poésie me donne plus de liberté. Je me sens plus libre et je me sens aussi à travers la poésie, je suis plus capable de produire quelque chose qui puisse émerveiller et de différent. Parce que les histoires, on les connaît des histoires. Il y a gens qui rencontrent Jeanne, qui vont faire des enfants, qui vont mourir. Mais quand on lit un texte, un poème, on commence dans un lieu, on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne peut pas prédire la fin d'un poème, la chute d'un poème. Je pense que c'est pour ça. C'est pas parce qu'on est plus libre. J'ai l'impression qu'on est plus libre, qu'on est plus. Et qu'on n'a plus cette possibilité de créer quelque chose qui puisse épater, qui puisse émerveiller. Voilà pourquoi moi-même, j'ai choisi la poésie, ou la poésie m'a choisi, et s'il faut parler comme ça.
Et ça vous fait bien parce que vous avez déjà reçu plusieurs distinctions en tant que poète.
Oui, j'ai reçu et pas mal de distinctions, bien sûr. Et la première distinction que j'ai reçue, c'était en fait en 2020, c'était le prix de la présidence de l'Université Sorbonne en France. C'est un concours où il y avait plus de 5 000 postulants venus d'horizons divers, de l'Afrique francophone, des Amériques, etc. Et j'étais le lauréat de ce concours. Et la même année, c'était une année de chance pour moi où j'avais reçu aussi, où j'étais finaliste à un concours de poésie ici au Canada. C'est peut-être le plus grand concours de poésie au Canada, le prix de la création. Donc j'étais parmi les 10 finalistes. Donc voilà, la poésie aussi m'a permis d'être reconnu dans certains milieux et c'est vraiment intéressant pour moi.
Un message, il y a des invités qui n'aiment pas ça, mais un message pour ceux qui veulent s'aventurer dans la poésie.
Ben en fait, il y a une seule façon d'aimer la poésie, c'est de lire la poésie et de se laisser imprégner par la poésie. Donc je dirais continue à lire la poésie parce que la poésie, ça peut changer le monde. Dans le sens que la poésie, c'est l'humanité, c'est la sensibilité, c'est l'autre, c'est l'altérité. Quand on lit un poème, on ne peut pas rester indifférent face à un poème. On ne peut pas rester indifférent face à un homme qui chante l'amour. On ne peut pas rester indifférent face à une femme qui chante la beauté du monde, la beauté de la nature, et qui décrit même la laideur avec une touche particulière. Donc, je pense que justement que et je j'encouragerais j'encouragerais les lecteurs ou les lectrices à lire la poésie, à lire, lisez la poésie, parce que la poésie, ça peut changer le monde.
Jordi Sedelva, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci pour cette possibilité et je pense qu'on a eu une très belle conversation et merci pour cette lumière.
Avant de mettre fin à cette émission, je me propose de vous faire écouter Woodley Saint-Louis Jean. C'est le meilleur ami des poètes, je le dis. Il a déjà mis en chanson les textes de beaucoup de poètes haïtiens. Woodley Saint-Louis Jean nous chante Haïti dans la pluie nous crier. On écoute.
Dans la pluie nous crier pour l'autre paouette l'ogène. Ven nous bien des vins, nous saignons dans l'endroit nous. Lè la lin te ti fi Tout jounel te kon bay payet Desan soley ansan Lan farin blem toa woy di fe Lè la lin te ti fi Yon fromaj kare tout dou lè li Lan souri yo felin L'an changé quartier en Valérie en bidonville. La ligne crevée sans connaître. Chaque fois, nous voulons racheter yon petit gousse l'espoir. Yon petit gousse l'espoir. Grand goût gonflé diol nous. Dans la pluie, nous crier pour l'autre pas être l'ogène. Ven nous bien des vins, nous saignons dans la droite nous. Les lalines t'étifient, ou journal te kon bay payet. Descend soleil ensemble, la farine blême toi roi t'y fait. Les lalines t'étifient. Yon fromaj kare tout dou lè li La souri yon felin Lan chanje katye An valeri an bidonville La lin kreve san konè Chak fwa n vle rache Yon ti gous l'espoi Yon ti gous l'espoi Gran gou gonfle diol nou Dans la pluie, nous crier pour l'autre paroi de l'ogène. Ven nous bien des vins, nous saignons dans l'endroit nous. Chaque fois, nous voulons racheter un petit gousse l'espoir, un petit gousse l'espoir. Grand goût gonflé, tiol nous.
C'était une très belle façon de mettre fin à cette émission sur la poésie avec Willy Saint-Louis Jean Haïti. Non, l'appeler, non crier. Merci à chacun de vous d'avoir fait ce voyage avec nous. Merci à l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Merci également à Stéphane Chéry pour la réalisation de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter Cause Kilti en podcast sur le site www.rfi.fr mais aussi sur l'application RFI Pure Radio. Si vous êtes intéressé à l'actualité générale en Haïti, laissez-moi vous dire que ça se passe aussi sur RFI du lundi au vendredi à 9h10 avec Anne Kotner. C'est dans le journal d'Haïti et des Amériques. Moi-même, je suis Rita Maroms et Traine. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.